Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Caroline Casadesus. Caroline Casadesus, bonjour.
Bonjour.
Je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque qui paraît chez Ad Vitam, est une première mondiale. On va en parler parce que ça aussi, ça fait débat, de la version piano et voix, voix et piano de La Voix humaine de Francis Poulenc, que vous avez conjugué avec une autre œuvre écrite également par Cocteau, La Dame de Monte Carlo. Ce choix de mettre les deux œuvres en relief et en miroir, ça s'imposait.
Ça s'imposait parce que, avant d'enregistrer le disque, je l'ai beaucoup interprété sur à la scène. Et La Dame de Monte Carlo est une œuvre qui dure à peu près 8 minutes, La Voix humaine 45 minutes. Donc ça faisait vraiment un spectacle complet. Et le pianiste avec qui j'ai la chance de me produire et qui m'a accompagnée magnifiquement dans ce disque s'appelle Jean-Christophe Rigaud. Entre les deux œuvres, il jouait deux gnossiennes de Satie. Voilà, pour permettre un changement de décor, un changement de costume. Et en plus de ça, bon, ça c'était vraiment une thématique, une logique théâtrale, si je puis dire, de coupler les deux œuvres. Mais c'est vrai que les deux ont été écrites par Cocteau, les deux mises en musique par Poulenc. Et les deux femmes n'ont pas de nom, de prénom. Elles n'ont pas d'âge. Elles ont des situations extrêmement tragiques, dramatiques. Elles vont toutes les deux trouver la mort en se la donnant. L'une se jette dans la Méditerranée, l'autre avale des barbituriques. Et je trouvais que le propos était quand même assez intéressant d'étudier ces femmes, vues par deux hommes qui aiment plus les hommes que les femmes, mais qui leur rend, l'un et l'autre, rendent hommage magnifiquement à ces femmes comme ça, très tourmentées, très extrêmes dans leur passion. Donc voilà, je trouve que ça a du sens.
Cette voix humaine, c'est un sujet inépuisable, Caroline Casadesus, c'est-à-dire que autant de chanteuses, autant d'interprétations, on ne sait pas à qui elle parle, on ne sait pas si elle parle à quelqu'un au téléphone, si elle parle à son amant, son état de désespoir, on ne sait pas si c'est dans son imaginaire, donc il y a mille interprétations. Vous, quand vous interprétez cette œuvre, est-ce qu'à chaque fois vous l'interprétez en pensant à quelque chose de différent, à une situation différente ?
D'abord, je pense que c'est une œuvre de maturité. Ça me paraît un peu difficile de chanter cette œuvre, de l'interpréter quand on a 20 ans. Il faut quelques cicatrices de la vie, donc j'en ai quelques-unes, comme tout le monde passé un certain temps sur cette planète. Je crois qu'il faut avoir vécu tout simplement la passion, la rupture, la passion amoureuse. Et après, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une rupture ? C'est forcément douloureux, surtout quand la relation a été très intense sur le plan affectif. Et voilà, je ne chante jamais ces deux œuvres, et en tout cas La Voix humaine, de la même manière. Je ne pense pas à quelqu'un en particulier, mais il y a quelque chose de presque d'extatique dans la manière de voir l'œuvre. Et j'ai enregistré le DVD avec un des ayants droit de Francis Poulenc qui s'appelle François Manceau. Nous étions à Boulogne-sur-Mer le 1er avril, c'était pas un poisson, et la directrice du théâtre est venue nous voir à la fin en me disant « mais ça me fait penser au dialogue des Carmélites ». Une espèce de marche comme ça qui est quasi spirituelle dans cette douleur. On ne sait plus effectivement si cette voix humaine, si cette femme est dans la réalité ou si elle a déjà basculé dans un autre monde. Et c'est ce que j'aime dans cette œuvre tellement complète, c'est qu'on est vraiment à la frontière de la folie en permanence. Ce téléphone, c'est à la fois l'arme effrayante et l'arme fatale, c'est le lien, c'est un cordon, est-ce que c'est un cordon ombilical ? On peut imaginer plein de choses. Et pour une chanteuse, je pense qu'il faut aussi être actrice, il y a une façon multiple de s'engager dans toutes les facettes du rôle, en fait.
Alors justement, cette œuvre, c'est de la mélodie ou c'est de l'opéra ? J'arrive pas à cerner, parce qu'on peut l'entendre en opéra, on peut l'entendre avec orchestre ou entendre comme une mélodie avec piano. En même temps, il y a une tragédie dans cette œuvre. Quand vous le chantez comme si vous étiez à l'opéra ?
Non, je le chante comme si je suis au théâtre. J'ai vraiment envie de donner une dimension. D'abord, il faut que le texte soit très compréhensible, intelligible.
Alors, excusez-moi de vous interrompre à ce sujet. Je trouve que votre diction, elle est incroyablement parfaite. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension totale du texte. Alors ça, c'est aussi un travail considérable. Je vous ai interrompu là.
Non, mais je vous remercie beaucoup. Ça ferait très, très plaisir à ma grand-mère, Gisèle Casadesus, qui elle-même est sociétaire honoraire de la Comédie française. Et elle a toujours attaché une très, très grande importance à cette politesse. Quand on chante en français, surtout si on est français, il y a, à mon avis, un minimum de correction qui est de rendre le texte intelligible. Et voilà, mon père est très attaché aussi à cette merveilleuse langue. Moi-même, j'ai grandi en allant au théâtre, à la Comédie française. J'ai appris à lire et à l'écrire et à écrire en écoutant Molière, Alfred de Musset. Voilà, les grands Marivaux, forcément. Et donc, le texte doit être compris. Et toute la volonté aussi de l'ingénieur du son, qui s'appelle Jean-Yves Labat de Rossi, c'était de placer ses micros de façon à restituer l'espace théâtral. On a vraiment réfléchi à la manière dont on voulait traiter le son, c'est-à-dire en réalité de la façon la plus naturelle possible. Il y a eu deux micros, c'est tout. On a enregistré dans le même espace Jean-Christophe Rigaud et moi-même, et on voulait donner une dimension théâtrale, on voulait faire en sorte que, à l'écoute du disque, l'auditeur se sente enfermé dans le huis clos théâtral. C'était très très important. Donc pour ma part, je me sens peut-être plus actrice que chanteuse, et ce rôle est dangereux pour les chanteuses, c'est pour ça qu'il est rarement interprété, parce que si on le chante avec une voix d'opéra, ça n'a aucun sens. Dire « Allô, allô, mais non madame !» avec un vibrato, c'est absurde. Il faut vraiment le dire et le chanter avec ses tripes, donc se mettre en danger, ne pas craindre de rapper la voix, d'avoir des sons presque criés. Voilà, c'est un ovni musical. Enfin, Poulenc disait lui-même de cette œuvre qu'elle était monstrueuse. Il a raison, on perd 2 kilos hein, si on est sincère en sortant de scène.
Il faudrait vraiment que je la chante alors. Mais Caroline Casadesus, justement, vous parliez du texte de la Comédie française, on parlait hors micro du fait que ça avait été donné, ces deux œuvres, La voix humaine et La dame de Monte Carlo, il y a quelques années par Martine Chevalier. Vous imagineriez, vous, de le donner sur scène sans le chanter, ou c'est un travail qui n'a rien à voir et qui, franchement, vous éloignerait tout?
Alors, c'est intéressant. Je pense que je ne pourrais pas, parce que j'ai une passion pour la musique de Poulenc. Et j'en avais même parlé à ma grand-mère, donc Gisèle Casadesus, qui, elle, n'aurait jamais joué ce rôle au théâtre. Elle n'aimait pas le rôle. Et je pense sincèrement que Poulenc l'a magnifié. J'en avais parlé avec Martine Chevalier aussi, qui avait trouvé que c'était vraiment très, très difficile de nourrir ses silences, de donner du sens à ce texte nu. Et finalement, la musique de Poulenc donne un sens presque hitchcockien. Il y a un suspense incroyable, que ce soit avec orchestre ou avec piano. Le piano permet une intimité encore plus nue, plus brute, plus rappeuse, plus saignante. Enfin, voilà, c'est horrible d'employer ce mot, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et oui, j'ai envie de dire que Poulenc est un Hitchcock en puissance, parce que ce côté très abrupt laisse du suspense. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si elle est dans la tendresse, dans la manipulation, dans le côté un peu suave, un peu chatte parfois, et puis tout d'un coup extrêmement violente. Et tout est indiqué dans la partition. Poulenc voulait tout. Il a indiqué les points d'orgue, il a indiqué la façon de ralentir, céder peu à peu, céder encore. Enfin, c'est incroyable. Du coup, c'est un peu aléatoire. C'est vrai que chaque interprète va s'approprier l'œuvre, en être à la fois possédé. Et on a une part énorme d'interprétation possible. Combien de temps va durer un point d'orgue? Chez chacune de nous, ça va être un temps X. Donc, pour moi, c'est une œuvre absolument géniale. C'est un vrai cadeau que je dois à mon père, sincèrement. Parce que quand il m'en a parlé en 2011 pour 2012, je me disais, oh là là, la voix humaine, j'avais entendu, enfin, écouté quelques versions qui ne m'avaient pas vraiment convaincue. Et quand je suis rentrée dans l'œuvre, j'ai trouvé ça, mais génialissime. Vraiment, merci Poulenc, merci Cocteau, merci mon père de m'avoir donné la chance de rentrer dans ce personnage.
Vous parlais d'Hitchcock, c'est vrai que je n'avais pas fait le lien avec le téléphone du crime était presque parfait, mais on peut effectivement y penser. Caroline Casadesus, quand on parle de ses œuvres, La voix humaine et La dame de Monte Carlo, alors est-ce que pour vous, La voix humaine, ce serait dans la lignée d'œuvres qui n'ont rien à voir a priori, comme d'œuvres de Schoenberg, Erbartung ou d'autres œuvres, où justement il y a une alternance de chant, de parler
Oui, quand on parle de Sprechgesang, c'est du chanter-parler. Effectivement, c'est toute la difficulté, encore une fois, de ces œuvres-là, c'est de pouvoir avoir des passages extrêmement lyriques, très très chantés, et puis tout d'un coup, des ruptures complètes avec du parler. Et du parler quand même mesuré, hein, du parler sur... c'est très très codifié. On a une grande part de liberté, mais il y a quand même un texte qu'il faut respecter, un texte musical, une prosodie aussi. Et c'est en ça que c'est très novateur, parce que c'est la première œuvre française à nous proposer ce type de travail. Effectivement, Alban Berg, on peut dire que Loulou est une œuvre aussi passionnante pour ça, parce qu'il y a des grandes ruptures, du parler, du chanter. À ma connaissance, il n'y a pas de compositeur français qui se soit lancé dans ce travail-là.
Alors, il faut rappeler pour les auditeurs qui ne savent pas forcément que, en fait, l'œuvre a été écrite par Cocteau en 1930 pour Berthe Bovy et que ça a été adapté en musique par Poulenc en 58. La Dame de Monte Carlo, ça, c'est quelques années plus tard, en 1961. C'est une œuvre très belle, peut-être moins puissante, mais que vous avez mise également sur ce disque et qui est moins aimée, enfin, pas moins aimée, mais qu'on entend encore moins que La voix humaine. C'est aussi difficile ou c'est un travail totalement différent ?
Ah, c'est pas facile, parce que le texte est peut-être parfois un tout petit peu moins simple. Il faut rentrer dans ce. D'abord, c'est très court. J'ai envie de comparer ces deux œuvres à un roman, ce serait La voix humaine, et une nouvelle, ce serait La Dame de Monte Carlo. C'est-à-dire que c'est très théâtral, La Dame de Monte Carlo. Ça dure 7 minutes. 7 minutes pour comprendre toute la psychologie de cette femme qui va jouer le tout pour le tout au casino, qui manifestement se fait refouler dès l'entrée. Elle se fâche, elle se révolte en disant « Mais moi, je vais leur montrer à ces croupiers qui m'empêchent de jouer ce que je sais faire. » Et ils n'ont rien vu. Et elle est très, très fâchée de ne pas pouvoir aller taquiner les tables de jeu. Et à la fin, dans un geste grandiose, elle va se jeter dans la mer Méditerranée, mais avec un brin d'humour quand même.
Caroline Casadesus, ces œuvres, vous allez les donner au Théâtre de Poche Montparnasse. Ce sera tous les lundis à compter du 30 mai prochain jusqu'au 11 juillet prochain. Donc, dans cet écrin qui est le Théâtre de Poche Montparnasse. Donc là, il y aura une mise en scène. Vous serez aux côtés du même pianiste, Jean-Christophe Rigaud. Mise en scène de Juliette Maillet. C'est une mise en scène, on dévoile ou on ne dévoile pas encore. On attend de voir, mais c'est la metteur en scène, Judith Maillet, qui vous a imposé sa vision, ou alors c'est un travail commun ?
Ah non, c'est un vrai travail commun. D'abord, c'est une affaire de famille. Juliette Maillet est une très belle actrice. Il se trouve que c'est aussi ma cousine Germaine, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. On avait envie de travailler ensemble depuis très longtemps. Et elle rêvait de me mettre en scène dans quelque chose de comique, après Le Jazz et la Diva, qui est un spectacle que j'avais créé avec mon ex-mari Didier Lockwood, pour lequel on avait eu un Molière en 2006. Et je lui ai dit, écoute, quelque chose de comique, je te propose La voix humaine. Donc, c'était pas comique du tout. Mais on avait très peu de moyens, puisque j'étais artiste en résidence en Seine-et-Marne, à Saint-Fargeau-Pontierry. Et on avait des tout petits moyens. On a décidé de faire quelque chose d'extrêmement minimaliste et de... voilà, on a réfléchi, je vais pas tout dévoiler, effectivement, mais on a énormément pensé à ce personnage qu'on voulait, encore une fois, à cheval entre la réalité et la limite de la folie. Elle a un téléphone, puis elle va en avoir un deuxième, et puis à la fin elle aura qu'un fil de téléphone, et puis très souvent elle va lâcher son téléphone, elle va parler, on ne sait pas à qui. Est-ce que c'est une démarche spirituelle? Ça peut être Dieu, ça peut être l'au-delà, ça peut être sa propre folie. On est très borderline de la schizophrénie. Mais c'était un travail absolument passionnant. Le faire au Théâtre de Poche Montparnasse, c'est une invitation de Philippe Tesson, dans un lieu comme ça très intimiste. Hein. Il y a 90 places, donc vous pouvez venir fort nombreux, on a besoin de vous. Mais Philippe Tesson a aussi décidé pour la première fois de créer une saison musicale. Donc je vais à la fois être sur scène tous les lundis dans La Voix humaine de Poulenc Cocteau, mais aussi les vendredis et samedis dans un spectacle qui s'intitulera Le bœuf sur le toit, qui va retracer un peu l'époque du cabaret du Paris des années 20-30. Le bœuf sur le toit, c'était Cocteau qui en était l'âme, et de nombreux compositeurs y passaient, Honegger, Millau, Poulenc, Satie, mais aussi Gershwin. Donc je vais avoir une chance folle de chanter tous ces compositeurs. Et puis je serai accompagnée par Jean-Christophe Rigaud au piano. Philippe Tesson sera sur scène, dira son texte et le jouera. Il y aura aussi un autre comédien dont je ne connais pas le nom encore. Et puis deux jeunes pianistes qui vont jouer aussi du jazz. Ça va être un spectacle très très riche. Et puis il y aura un autre spectacle les mercredis et jeudis de Reinhard Wagner autour de Picasso. Donc il va y avoir une saison musicale comme ça. C'est la première fois aux poches. Du 30 mai au 11 juillet.
Donc ce sera en même temps, parallèlement, La Voix humaine ou ce sera après ? Très bien,
alors. La même semaine. Donc le lundi, La Voix humaine, et le vendredi et le samedi, Le bœuf sur le toit.
Mais La Voix humaine, c'est épuisant. Enfin, on a l'impression, quand on assiste à ces représentations de cette voix humaine, ça doit être épuisant psychologiquement. Et puis, au niveau du travail de la mémoire de la voix, c'est considérable.
Oui.
Vous êtes toute seule sur scène, oui, c'est quand ça. Même une œuvre. Donc la femme est au téléphone, on ne sait pas si elle est avec quelqu'un au téléphone ou pas, mais bon, ça c'est l'interprétation que chacun peut s'en faire. Mais vous êtes toute seule sur scène avec le pianiste, c'est quand même rare.
Oui, non, c'est vrai que c'est un monologue lyrique. C'était écrit à l'époque où on avait on passait par des opératrices pour demander son correspondant. Et il y avait des ruptures en permanence. Alors, quelquefois, j'ai entendu dire que l'œuvre avait vieilli, et je ne trouve pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on a des coupures avec les téléphones portables, on passe sous des tunnels, on ne s'entend plus, le « allô, allô », mais je ne t'entends pas, on entend ça tout le temps. Les ruptures se font aussi, malheureusement, par texto, c'est très dur, par téléphone, c'est un moyen un peu lâche. Se quitter droit dans les yeux, c'est quand même plus courageux. Et finalement, pour moi, la problématique de la rupture n'a pas pris une ride. Et sincèrement, chacun s'y retrouve. C'est vrai qu'à la fin, je devrais distribuer du chocolat ou du Prozac. Ce serait plus sympa. Non, c'est sincèrement, j'ai eu la chance de l'interpréter aux côtés de Jean-Christophe Rigaud pendant peut-être. On a dû faire la jouer une quinzaine, vingtaine de fois cette œuvre. Et ça ne laisse jamais personne indifférent. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours un temps. Avant des applaudissements, parce que ça nous touche tellement intimement. Chacun se joue son film, chacun reçoit l'ovni musical, et c'est comme un hypercute, quoi. C'est violent et très intense.
Oui, puis alors le côté des gens qui disent que c'est une œuvre datée parce que le téléphone aujourd'hui ne serait pas pareil. Enfin, si on voit les Trois Mousquetaires, on ne va pas se plaindre que les gens soient à cheval. Enfin, je veux dire, c'est une œuvre, elle n'est pas datée en fonction de ce qu'elle nous montre ou du médium qu'elle utilise. Elle est datée si on ne peut plus l'écouter ou l'entendre aujourd'hui et apporter le même intérêt qu'avant. Or, la voix humaine, c'est inusable. Enfin, ça fait partie de ces chefs-d'œuvre qui sont. Alors. Il est marqué, alors ça c'est pas un sujet de Discord, Caroline Casazu, le disque qui est paru chez Ad Vitam Records, qui est un label vraiment qui fait des choses très intéressantes. Moi j'ai arrivé de recevoir des guitaristes, puisque c'est un label qui s'intéresse beaucoup à la guitare. Il est marqué première mondiale version voix au piano, alors des gens vous disent, il y a d'autres versions, mais en fait c'est la première mondiale autorisée.
Alors oui, je remercie au passage effectivement Anne Dieu-Megard et Jean-Yves Labadre aussi parce qu'ils font un travail remarquable. Ils sont extrêmement proches de leurs artistes. C'est un label courageux parce qu'aujourd'hui, il faut avoir du courage pour avoir une maison de disques. Courageux et puis oui, qui s'investit de façon très ciselée et qui accompagne vraiment les artistes. C'est formidable, vraiment un chapeau à tous les deux. Cette première, oui, c'est une première parce que il y a toute une polémique. En fait, j'ai une admiration folle pour Georges Prêtre, qui a créé l'œuvre et qui aimait beaucoup la version orchestrale. Mais il faut savoir que Poulenc, mon poupoule, comme disait Denise Duval. Poulenc et Denise Duval adoraient cette version piano-voix. Et puis, pendant un certain temps, les ayants droit ont décidé que seule la version orchestrale serait interprétée. Pour deux raisons. La première, c'était ne pas faire à l'économie. Donc donner la version qui est splendide, enfin il y a des couleurs, Poulenc qui était un orchestrateur de génie. Maintenant les contraintes économiques et budgétaires, il faut quand même en avoir conscience, c'est pas toujours facile d'avoir un orchestre de cette envergure et c'est très très dommage de ne pas interpréter l'œuvre dans sa version plus réduite. Je pense que du coup elle est plus légère entre guillemets, plus transportable et voilà, il faut quand même faire en sorte que cette œuvre soit jouée le plus souvent possible, parce qu'elle est splendide, vous l'avez dit vous-même, c'est d'une rare intensité, c'est compréhensible par tous, dans les lycées et les collèges, quand je fais des masterclass, les ados sont très touchés, parce que les premières histoires amoureuses et les premières ruptures sont violentes, et j'ai eu souvent des jeunes qui sont venus et qui ont été très très frappés par la théâtralité de cette œuvre-là, qui ne serait pas forcément allé écouter du Mozart d'ailleurs ou du Verdi, mais tout d'un coup Poulenc ça parle, parce qu'en plus de ça c'est d'une modernité incroyable, il y a des accents, les jazzmen adorent Poulenc, vraiment, il y a des couleurs magnifiques, cinématographiques, enfin, c'est de la musique palpable. Maintenant, première mondiale, oui, effectivement, Benoît Seringe qui aujourd'hui s'occupe de l'association des amis de Francis Poulenc m'a certifié que j'avais le droit d'utiliser cette mention de première. Felicity Lott l'a enregistrée, mais en DVD. Et puis, il y a plein de versions non autorisées. En réalité, on doit passer par les ayants droit pour avoir l'autorisation d'enregistrer l'œuvre voix et piano.
Caroline Cadatsu, vous parliez de Denise Duval, qui était la créatrice de l'œuvre. Alors, quand on ouvre votre disque et qu'on ouvre le texte qui l'accompagne, ça fait très chic, parce que Denise Duval, qui est malheureusement décédée il y a quelques mois, vous dit « J'apprends que vous allez interpréter les deux ouvrages de mon poupou. Je suis certaine que vous allez obtenir un triomphe. Sachez, Caroline, que je vous admire pour votre immense talent, etc. » Enfin, le reste, je ne vais pas vous faire rougir. C'est de la même eau. C'est quand même, ça fait très chic hein, d'avoir ça.
Oh bah c'est surtout, c'est plus que chic. Moi, quand j'ai reçu la lettre de Denise Duval que je n'ai jamais rencontrée, j'ai carrément éclaté en sanglots. Enfin, et je la relis à chaque fois que je monte sur scène. J'ai une amie pianiste qui s'appelle Françoise Menghini, dont la sœur Annie Goumel était très très proche de Denise Duval. Et sachant effectivement que j'allais interpréter l'œuvre au théâtre de Fontainebleau, elle a écrit ce mot. Je lui ai demandé par écrit l'autorisation de le reproduire dans le livret du disque. C'est énorme un cadeau comme ça. C'est vraiment un passage de relais. Je pense qu'on est tous quelque part un peu passeurs. Finalement, interpréter une œuvre de cette dimension, c'est un vrai cadeau. Et quand en plus de ça, la créatrice vous donne presque sa bénédiction, c'est énorme. Alors j'ai essayé d'être à la hauteur. Mon vrai chagrin, mon vrai regret, c'est de ne pas avoir pu faire écouter cette interprétation à Denise Duval qui nous a quittés. Littéralement, j'avais le disque en main, j'allais lui envoyer en Suisse et j'ai appris par son amie qu'elle avait décidé de quitter ce monde. Alors là-haut, je ne sais pas, peut-être qu'elle sourit et peut-être qu'elle nous envoie des ondes positives.
On a évoqué, Caroline Cadatsu, Jean-Christophe Rigaud, qui est le pianiste auprès duquel vous interprétez cette œuvre et qui sera avec vous au Théâtre de Poche Montparnasse. Donc lui, en fait, connaissait l'œuvre avant même que vous la preniez, puisque vous me disiez aussi hors micro que quand vous lui avez dit que vous alliez interpréter cette œuvre 6 mois plus tard avec l'Orchestre de Lille, si j'ai bien compris, vous avez dit « dépêche-toi de travailler parce que c'est redoutable ». Donc lui, c'est une œuvre qu'il possède depuis toujours.
Et Jean-Christophe Rigaud est un pianiste remarquable qui a eu un parcours assez atypique aussi. Il adore accompagner, il faut le dire. Il n'aime pas forcément jouer en soliste. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la voix, les voix de femmes, les voix d'hommes aussi, mais particulièrement les voix de femmes. Et il a rencontré cette œuvre à l'âge de 20 ans. Et il a un petit peu plus maintenant, mais toute sa vie, il espérait pouvoir la jouer. Et quand on s'est retrouvés et que je lui ai dit que j'allais chanter l'œuvre sous la direction de mon père avec l'Orchestre National de Lille, immédiatement il m'a proposé de m'aider à la travailler en me disant « Attention, la Dame de Monte-Carlo, c'est un biscuit apéritif, la voix humaine, c'est énorme, 6 mois, il n'y a rien de trop pour la travailler ». Et je lui en sais gré parce qu'effectivement, ça a été un travail colossal. Et on a parfois travaillé pendant 7 heures par jour. Comme il habitait Lille et moi, la région parisienne, on ne pouvait pas se voir tous les jours, bien évidemment. Donc, on se donnait des rendez-vous comme ça, une fois par mois. Et on travaillait 7 heures par jour d'affilée. Alors, pas à pleine voix, bien entendu. Il a été d'un secours énorme. Il m'a semblé absolument évident de lui proposer de m'accompagner quand j'ai eu la chance de jouer l'œuvre dans sa version, donc piano et voix. Et quand j'ai pu enregistrer chez Ad Vitam Records, c'était Jean-Christophe et personne d'autre, évidemment.
Caroline Casadesus, on est en plein dans la voix humaine, la Dame de Monte Carlo, et puis ce disque qui vient de paraître chez Ad Vitam, et puis ce spectacle que vous donnerez du 30 mai au 11 juillet prochain au Théâtre de Poche Montparnasse. Vous avez, c'est une œuvre qui possède quand même, mais enfin, vous n'avez pas envie de temps en temps de chanter des choses qui vous éloignent un peu de cet univers et d'y revenir après, parce que là vous êtes tout le temps dedans.
Oui, je suis. Si, j'ai la chance de pouvoir. Heureusement, je chante. Je la chante pas tous les jours. Je crois que c'est impossible. Déjà, la chanter tous les lundis, ça va être assez dense. Dieu merci, grâce à Philippe Tesson, Stéphanie et Daphné Tesson, je vais pouvoir interpréter des œuvres un peu plus légères dans le cabaret musical du Bœuf sur le Toit les vendredis et samedis. J'espère que je tiendrai le coup, parce que c'est vrai que. C'est très intense. Oui, vous avez raison, c'est très intense. Il faut pouvoir avoir de la distance pour quitter l'œuvre. Et à chaque fois que je replonge dedans, je commence déjà par être un peu lasse en sachant quelle va être la montagne. C'est un petit peu comme quelqu'un qui aurait un sommet à gravir et qui l'a déjà fait plusieurs fois et qui sait que ça va être dur, qu'il va y avoir des moments de doute, des moments de douleur. Mais en même temps d'immense plaisir. C'est un vrai voyage, cette œuvre-là. Et puis, il faut embarquer tout le public. Il faut être sincère, sinon ça ne marche pas. Il faut prendre des risques, sinon ça ne marche pas. On peut perdre son public. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de monde à emmener dans sa besace. Mais c'est un voyage qui vaut vraiment la peine. C'est d'une telle émotion, d'une telle intensité pour l'auditeur et pour les interprètes.
En même temps, alors je vais essayer de ne pas tomber dans le cliché, mais pour faire ressentir à l'auditeur, au spectateur, une émotion, est-ce qu'on est obligatoirement obligé de la ressentir soi-même ? Parce que quand vous interprétez, il y a tout le travail musical, de mémoire, le texte sublime de Cocteau, cette musique merveilleuse de Poulenc. Vous jouez cette femme dont on ne sait pas si elle est folle, abandonnée, ou les deux, ou on ne sait pas à qui elle parle, encore une fois. Mais vous, il y a tout ce travail musical. Après tout, vous interprétez une œuvre d'art musicale. Vous incarnez cette femme, mais en même temps, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais les gens ressentent ce que vous exprimez. Mais vous, est-ce que vous êtes obligé de le ressentir ?
Alors oui. Oui, sincèrement, oui, ça m'est arrivé d'avoir des trous de mémoire. Dieu merci, Jean-Christophe est un artiste incomparable. Il m'a rattrapé plusieurs fois parce que parfois, je quitte la route, exactement, enfin, une sortie de route comme en voiture. Hein. Tout d'un coup, on est, y a ce côté un peu d'extase. Il faut un travail énorme pour ne pas être... C'est mon père qui me disait ça. Il me disait, tu sais, il faut arriver à émouvoir l'autre sans être ému soi-même. C'est vrai, mais dans cette œuvre, c'est impossible. C'est impossible parce que par moment, voilà, il y a une respiration, une envolée lyrique, un sentiment qui vous traverse et qui vous transperce. Et il faut beaucoup, beaucoup d'énergie pour se recentrer et pas être emporté par la vague, par ce torrent émotionnel. Maintenant, pour qu'une œuvre soit vraiment intégrée, il faut la faire sienne. Donc parfois... Je vais oser quelque chose de très... C'est pas prétentieux, mais j'essaye de faire en sorte... Je fais comme si je l'avais écrite moi. Comme si ce personnage... Enfin, c'est compliqué parce que par moments, on peut avoir un dédoublement de personnalité. On a tous en soi un petit diable qui va vous dire « tu vas te tromper ». Ah, il y a un petit ange qui dit « mais non, fais confiance, tu as travaillé ce rôle et tu le possèdes ». Et il y a une dualité comme ça. On peut devenir complètement dingue, sincèrement. Mais je pense que le seul vrai guide, c'est encore une fois la musique. C'est... Quand Jean-Christophe a tout d'un coup une inflexion, une respiration, on est très très proche. On est d'abord très proche parce que même sur une immense scène, on a joué au Tourski à Marseille, donc c'était un grand plateau, théâtre de 800 places. Que le plateau soit grand ou petit, on est proche. Moi, j'ai une espèce de chaise comme ça qui est un lit tendu de tissu rouge, j'en dirais pas davantage. C'est la chambre, c'est ce huis clos, mais je suis très proche du piano et du coup, j'entends les respirations de Jean-Christophe. Et quand il sait que je m'égare un peu, il prend une énorme respiration pour me rappeler à l'ordre quelque part. Il est totalement complice. Et c'est pour ça que j'aurais pas pu jouer cette œuvre-là avec un autre pianiste. Si Jean-Christophe tombe malade ou ne peut pas jouer, je vais pas le remplacer. J'ai pas du tout envie. Parce qu'on a construit quelque chose, c'est un vrai binôme. Lui sait très bien à quel endroit je vais presser, à quel endroit je vais tendre. Il est complètement à l'écoute et c'est ça qui fait aussi la réussite du spectacle. C'est notre fusion. Finalement, le texte et la musique sont totalement imbriqués et son jeu et mon jeu, on a réussi à trouver une respiration commune finalement.
Caroline Casatus, c'est sur cette respiration commune qu'on va se séparer. Je rappelle la parution de ce disque chez Ad Vitam. Vous êtes aux côtés de Jean-Christophe Rigaud pour cette version voix et piano de La Voix humaine et de La Dame de Monte Carlo, de Jean Cocteau et de Francis Poulenc, des œuvres que vous donnerez du 30 mai au 11 juillet prochain au Théâtre de Poche Montparnasse tous les lundis dans une mise en scène de Juliette Maillet. On pourrait encore en parler pendant des heures de cette voix humaine, mais malheureusement il y a un temps pour se séparer. Caroline Casatus, merci infiniment d'avoir été mon invitée.
Merci à vous de m'avoir reçu.
S'il était là.
Voilà, c'est comme si Jean-Christophe était à mes côtés. Et puis encore un grand merci à Ad Vitam Records, parce que vraiment, sans eux... Et Lara Sidorov aussi, qui est mon agent et qui m'a permis de rencontrer ces êtres merveilleux.
Merci à vous.